Taha Hussein dans la prison d'Abul Ala. Extrait. Chapitre 7. Cet homme libre, comme les musulmans n'en ont pas connu de pareil, s'est permis une liberté intellectuelle dont ne peut jouir encore un musulman dans ce siècle, celui de la constitution et de la démocratie parlementaire. Cet homme libre dans ses pensées et sa réflexion, son imagination et ses jugements. Cet homme qui dépassa la liberté jusqu'à la révolte, s'est imposé des règles strictes et s'est chargé de lourdes chaînes. Peu importe qu'il se soit imposé l'isolement et refusé de se marier et d'avoir des enfants, se soit privé de tous les plaisirs de la vie et se soit contenté de l'existence la plus rude, car c'était là des règles et des chaînes qui découlaient de sa philosophie. C'était la conséquence pratique de cette pensée à laquelle il était enclin. Mais la chose remarquable est que, dégagé des contraintes religieuses, sociales et naturelles, il se soit imposé des contraintes artistiques qui nous font sourire, et dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles sont ingénues et ne s'accordent pas avec le sérieux et l'amertume du philosophe. Que dire d'un homme qui s'interdit de manger des fruits, de cueillir des fleurs et d'autres plaisirs innocents, mais s'impose toute une série de figures de rhétorique tout au long d'épais ouvrages en prose et de gros recueils de vers? On pourrait s'amuser, s'indigner ou s'étonner de constater que ces philosophes qui surestiment la puissance de la raison, la solidité du jugement, la pénétration d'esprit et la force de la volonté en viennent à se distraire à des enfantillages. Toutefois, ce respect de règles artistiques de la part d'Abul Ala, sa quête de beauté formelle, son abandon à cette recherche et le plaisir qu'il y prend, n'ont pas eu que des conséquences heureuses du point de vue artistique. Car il serait exagéré de prétendre que la poésie des impératives est bonne de part en part, ou même dans sa majeure partie. Seule une petite partie des impératives est bonne et aurait pu constituer un mince recueil représentant la beauté artistique et l'essentiel de la philosophie d'Abul Ala. Et même s'il ne visait pas la seule philosophie, mais aussi la virtuosité lexicale, le passe-temps et la distraction de la vie et de ses peines, il aurait pu dire aux gens ce qu'il souhaitait dire et leur représenter ce qu'il souhaitait représenter de ses idées et opinions sur la religion, les prophéties et la vie sociale, en des termes plus simples et d'une manière plus directe. Mais ce n'est pas ce qu'il souhaitait. Il souhaitait composer des poèmes selon l'ordre alphabétique, avec toutes les vocalisations possibles, puis y ajouter une rime de deux lettres. Il lui fallut donc respecter cette condition, quels que soient les efforts que cela lui coûta et la peine qu'il y prit, car il en avait fait son but personnel et artistique et s'efforçait d'y parvenir. C'est ce qui provoqua ses répétitions et ses redites, qui suscitent chez le lecteur un ennui et une lassitude indescriptibles et insupportables, à moins qu'il ne soit un chercheur, ou qu'il ne soit autant rompu au désespoir que pouvait l'être Abul Ala. Car ce qui rend ces répétitions pénibles, c'est que l'auteur ne répète pas des choses agréables ou que l'on souhaite entendre de temps en temps, mais il répète des choses désagréables, qui rendent la vie odieuse, détournent d'elle et en font désespérer. Certains peuvent apprécier cela pour renforcer leur moralité et cultiver leur esprit, s'entraînant à supporter le mal, à tenir ferme face aux épreuves et éviter l'ingratitude et l'effronterie auxquelles le bien-être peut mener. Mais cela est une chose, et s'abandonner à détester la vie, la rendre détestable et la représenter sous ses traits les moins agréables et les plus repoussants en est une autre. Surtout, tout au long d'un volumineux recueil de poèmes en 2 tomes et de livres en prose aux pages innombrables, puisqu'une seule partie nous en est parvenue dans l'attente que le reste ne soit un jour découvert. Mais ce n'est pas tout, car nous pouvons excuser ces répétitions en disant qu'Abul Ala ne peut donner que ce qu'il a. Il n'avait que son pessimisme dont il nous donna ce qu'il pouvait. Car nous ne pouvons pas demander aux poètes plus que ce qu'ils ont. Il serait injuste de demander à Abu Nawas du pessimisme et de demander à Abul Ala de la joie. Ce dernier n'a pas forcé les gens à lire ses livres et ses recueils, mais les a confiés à ceux qui veulent les lire, tout ou en partie, y trouver ce qu'ils apprécient et rejeter le reste. Si on peut donc excuser les répétitions d'Abul Ala, il y a un défaut que l'on ne saurait excuser, c'est de s'abandonner comme il le fit aux sonorités des mots et les faire prévaloir sur le thème et sur l'art comme il finit par le faire. Qu'un poète s'impose l'allitération ou d'autres figures de rhétorique dans tout ce qu'il dicte comme poésie ou dans une certaine partie, c'est habituel, qu'on l'accepte ou pas, qu'on l'apprécie ou pas. Mais qu'un poète fasse du respect de la rime et d'elle seule une loi artistique à laquelle il se soumet totalement, non pas dans un poème ou deux, mais dans un gros recueil, qu'il s'impose cette règle stricte comme le fit Abul Ala et qu'il s'y conforme en l'appliquant à toutes les lettres de l'alphabet, autant qu'elles soient et quelles que soient les idées qu'il voulait exprimer, c'est une chose insupportable qui ne peut mener son auteur à rien de bon. C'est ainsi que les poèmes sont longs ou courts, non parce que le sujet l'implique, mais parce que la rime choisie par le poète l'impose. On peut ainsi se lasser de cette longueur en estimant avoir compris ce que le poète voulait dire et qui aurait pu se faire en quelques vers n'était la rime. Le thème peut nous plaire et nous séduire, de même pour l'expression, et l'on peut avoir besoin que le poète développe parce que sa voix nous plaît, que son chant nous ravit et que son thème est à notre goût. Mais c'est alors que le poète s'interrompt au bout de 2 ou 3 vers, non parce qu'il est satisfait ou a exprimé ce qu'il voulait, mais parce que la rime l'y contraint et l'y force. Cela suscite chez le lecteur, qu'il l'aime ou pas, beaucoup d'agacement et pourrait le conduire à critiquer Abul Ala, mais il faut se souvenir qu'il n'a pas pensé seulement à l'auditeur ou au lecteur lorsqu'il dicta les impératives, mais a aussi et peut-être surtout pensé à lui-même. Il a voulu exprimer et représenter ce qu'il ne pouvait pas ne pas examiner et représenter. Il voulut surtout se distraire et s'est imposé une sorte de haute gymnastique mentale, ce qui peut plaire ou pas, mais c'était le cadet de ses soucis. Peut-être qu'il a lui-même illustré au mieux cette idée dans ses vers que j'aime extrêmement et apprécie profondément, car je considère qu'il révèle un esprit exceptionnel et une forte personnalité. Écoute cet avis, et qu'il te suffise avec ses défauts et travers. Qu'attendent mes hôtes de moi? Des paroles? Or je ne voudrais que rester quoi? C'est un abîme qui nous sépare. Qu'ils suivent leur chemin, et moi le mien. Laissons le 2e vers auquel nous reviendrons pour nous arrêter au 1er et 3e. Abul Ala donne son avis aux gens en considérant qu'ils ne peuvent s'empêcher de demander davantage, mais qu'ils doivent le prendre pour ce qu'il est, en dépit de ses défauts et lacunes. Ils ne peuvent le redresser ni corriger son avis, mais doivent l'accepter ou le rejeter. Et je ne connais pas de prétention à la liberté intellectuelle et de personnalité philosophique semblable à celle-ci. Abul Ala sait bien qu'il est parfois sinueux, avec ses défauts et travers, mais c'est son affaire, et il préférait être pendu que redressé et corrigé. Puis, dans le 3e vers, il constate le gouffre qui le sépare des autres qui suivent leur chemin, alors que lui poursuit le sien. De même qu'il ne les force pas à revenir à lui, ils ne peuvent en demander autant. On peut être sûr qu'Abul Ala entendait par là non seulement sa philosophie, mais sa personnalité tout entière. Il entendait sa philosophie, ou plutôt ses opinions philosophiques, car il ne peut les abandonner puisqu'il en est convaincu, à moins qu'un doute inopiné ne le saisisse ou qu'un nouvel argument ne lui soit opposé. Ce doute doit venir de lui-même et non des autres. Et cet argument doit venir de sa propre raison, non de celle des autres. Les gens sont libres de partager ses vues ou de les rejeter. Mais il entendait aussi sa vie pratique, car il avait fait le choix de l'isolement, s'était privé des plaisirs en préférant une vie rude. Il se tenait à ce choix et rien ne put l'en détourner, pas même le grand propagandiste fatimide avec ce qu'il employa de menaces et de promesses, d'incitations et de pressions. Les gens étaient libres d'être d'accord avec lui ou pas. Mais il entendait aussi ses conceptions artistiques qui aggravèrent ses défauts et travers, parce que c'était une chose palpable dont l'étrangeté pouvait heurter l'oreille et rebuter le goût. Mais il y tenait et s'y complaisait, et ne l'abandonnerait pas pour faire plaisir. Car souhaita-t-il jamais faire plaisir à personne? Abandonna-t-il quoi que ce soit pour faire plaisir à quelqu'un? Prenez donc les impératifs comme elles sont, si elles vous plaisent, et si ce n'est pas le cas, cherchez votre plaisir dans d'autres livres. Car Aboul Ala n'a pas composé de poésie pour vous, mais pour lui-même. Il en fut satisfait et s'en contenta. On dira que c'est de l'orgueil, et même de l'orgueil outré. C'est juste. Mais qui pouvait-il, puisque cet orgueil lui était congénital, même si sa vie ne fit que l'accroître et le développer? Comment en aurait-il été autrement alors que cet orgueil ne put même l'empêcher d'aspirer à ce à quoi personne d'autre n'avait aspiré? J'ai déjà montré qu'Aboul Ala souffrit car il comprit la sagesse divine mais ne put atteindre son essence sans se contenter de cette incapacité. Ne demandez pas à Aboul Ala de réfréner cet orgueil, mais plaignez-le plutôt et compatissez. Puis revenons-en au deuxième vers, pour constater qu'Aboul Ala mérite cette compassion amusée. Qu'attendent mes hôtes de moi? Des paroles. Or, je ne voudrais que rester quoi? Mais est-ce bien vrai? Que ses hôtes aient voulu qu'ils parlent, cela ne fait aucun doute. Il ne les avait pas invités, n'avait pas fait étalage de son savoir et de ses connaissances, ne les avait pas convoqués de leur région éloignée et de leur pays lointain. C'est eux qui vinrent le voir pour s'instruire auprès de lui en insistant pour cela. Mais est-il vrai qu'il ait souhaité se taire? C'est ce dont je doute fort. Aboul Ala n'exprime pas sa réticence à parler dans ce seul vers. Il le fait aussi à propos de la dictée. N'aurais-je jamais congé de cette fureur de dictée? Qu'est-ce qui le força à parler et à dicter? Il se peut que l'intérêt et l'insistance des gens à partager son savoir linguistique et littéraire les forçaient à l'étude et à la dictée. Il se peut aussi que les contacts recherchés par les autres et leur insistance à correspondre avec lui en prose ou en vers l'aient obligé à écrire telle ou telle lettre ou bien à composer tel ou tel poème de l'étincelle du briquet. Mais qu'est-ce qui le força à composer les impératives et à dicter les versets et périodes? Personne, sinon lui-même, parce qu'il ne pouvait faire autrement. Pensées et idées affluaient en lui, et il ne pouvait les contenir ni les cacher. Elles se présentaient sous des formes artistiques en prose ou en vers, et il ne pouvait s'empêcher de les imiter et de les exprimer. Et lorsque cela advenait dans sa solitude, il ne pouvait les conserver en mémoire pour se les réciter à lui-même et était forcé de les faire entendre aux autres en espérant qu'ils les apprécieraient pour une raison très simple. Aboul Ala était philosophe, et un philosophe veut donner son avis et convaincre. Il était aussi poète, et un poète veut déclamer et faire entendre aux autres son chant. Tous les philosophes préfèrent le silence, mais pas en ce qui concerne ce qu'ils font, parce que la force de l'opinion et de la vie en société sont plus puissantes que leur prédilection pour eux-mêmes. Tous les poètes dignes de ce nom composent pour eux-mêmes et y trouvent leur plaisir et leur joie. Mais ils ne jouissent vraiment de ces poèmes que lorsqu'ils les diffusent et en reçoivent un écho des autres. Le plus probable, et ce qui est même attesté, est que s'il avait vu les gens prendre au sérieux sa résolution en le laissant vraiment seul, c'est lui qui serait sorti pour leur réciter sa poésie et leur faire part de ses opinions philosophiques. Car le philosophe et le poète sont de grands enfants. Ils aiment le silence, mais aussi parler et avec passion. Ils aiment la solitude, mais aussi restent en contact avec les autres, ne pouvant s'isoler complètement d'eux. Il suffit de lire les impératives et de constater ce qu'elles contiennent de critiques sociopolitiques pour comprendre qu'Abul Ala ne s'est pas isolé complètement des autres, mais a vécu avec eux et a éprouvé ce qu'ils ont éprouvé. Il les a aussi soigneusement étudiés. Il en a fait la matière de sa philosophie et de sa poésie, s'est distrait et a sermonné les gens. Abul Ala ne pensa pas aux autres et ne se soucia pas de les satisfaire en composant les impératives, mais à lui-même. Et peut-être que j'exagère un peu, mais je ne doute pas que les gens à l'époque d'Abul Ala goûtaient cette préciosité, où ils voyaient de l'habileté, de la virtuosité et de l'excellence, comme Abul Ala lui-même. Car si les gens de son époque s'étaient détournés de cette préciosité, il est possible, voire probable, qu'Abul Ala s'en serait aussi détourné et qu'il aurait cherché une autre forme de divertissement pour une raison très simple. C'est que le lien entre le poète et ses lecteurs ou auditeurs est trop puissant pour qu'il soit rompu par la philosophie, quelle que soit la distinction du poète ou du philosophe par rapport aux autres, et quel que soit le degré de solitude et d'isolement auquel le pousse son pessimisme. Combien de fois fit-on remarquer à Abul Ala que les oiseaux pour chanter n'ont pas besoin de notre plaisir à les entendre, que les fleurs se soucient peu de nous ravir et de nous combler par leur aspect et leur parfum, et que le soleil qui diffuse de la chaleur et de la lumière ne se soucie pas que les hommes y puisent leur vitalité et leur joie, leur satisfaction et leurs besoins. Les oiseaux apprécient-ils même le chant qu'ils produisent? Les fleurs sentent-elles le parfum qu'elles répandent? Le soleil sent-il qu'il diffuse lumière et chaleur? Est-ce que la nature poursuit les buts que nous voyons en elle? Bien sûr, Abul Ala n'obtint pas de réponse à cette question, mais sa raison le conduisit à cette réponse attristante et pénible. La nature n'a cure de nous, comme du plaisir ou de la douleur que nous éprouvons lorsque nous sommes en contact avec elle, car elle ne pense pas et ne ressent rien. Par conséquent, elle n'a pas de volonté mais est conduite instinctivement et entraînée machinalement. Mais Abul Ala ressentait, pensait, méditait et voulait, était marqué par le chant et la philosophie qu'il exprimait, tenait compte de la satisfaction des autres ou de leur insatisfaction. Et c'est pourquoi il l'acceptait ou la rejetait. Comme les oiseaux, les fleurs et le soleil, ils produisaient quelque chose qu'ils le veuillent ou non. Mais à la différence d'eux, il était doté d'un esprit qui distinguait cette production et évaluait son impact sur les autres. Cela le conduisait à renchérir sur cet impact et à mettre ses œuvres en harmonie avec ce à quoi était habitué le public. Ce qui est curieux, c'est qu'Abul Ala se soit parfois leurré sur son art en pensant qu'il se faisait mal et se créait de grandes difficultés alors qu'il n'en était rien, ou plutôt qu'il avait trouvé sa voie et l'avait parcourue pour remplir la condition qu'il s'était fixée à lui-même d'une part et pour satisfaire son besoin de philosophie et de chant d'autre part. Peut-être que la section de la lettre A des impératives en est le meilleur exemple, car Abul Ala, dans de nombreux poèmes de cette section, s'impose le « ha » avec les diverses voyelles, puis une lettre supplémentaire comme c'est le cas dans tout le recueil. On pourrait penser que l'auteur a supporté pour cela de grosses difficultés comme avec les autres lettres, mais un coup d'œil montre que son effort fut léger, car le « a » qu'il s'impose n'est autre que le pronom affixe avec diverses vocalisations. En respectant cette règle, il ne change rien et ne s'impose qu'une seule rime, la lettre qui précède ce pronom. Quoi de plus simple pour Abul Ala? Regardez ce poème. Par ma vie, la meilleure provision face à tout malheur, c'est ton Dieu, dont tu espères la grâce et la faveur. La rime est ici ce pronom, que le poète a fait précéder d'un lame. On peut lire ces presque 40 vers pour constater que le pronom demeure la rime. Abul Ala n'a donc pas changé ni varié, sinon dans le mot qui précède, qui doit se terminer par lame et l'alif qui le suit. C'est parfois un verbe auquel le pronom est accolé ou un nom. Comme si une fois ce poème achevé, il avait trouvé qu'il y avait là une facilité ou une aisance qui ne convenait pas à ce qu'il voulait s'imposer à sa volonté de rigueur, et dû remplir la condition qu'il s'était posée à lui-même en suivant le « a », et ainsi composa son poème en respectant cette contrainte avec une lettre précédente, mais y ajouta une autre lettre. Il y a un autre défaut dans lequel tomba Abul Ala du fait des règles artistiques qu'il s'imposa, c'est le manque d'unité thématique dans les poèmes longs comme dans les pièces courtes, où il se contente parfois de cette unité formelle tenant à la rime et de celle lâche et ténue qui vient du fait que les impératifs sont toutes consacrées à la sagesse et au sermon. Or, Abul Ala avait su construire ses poèmes dans l'étincelle du briquet, où l'on ne passe d'une partie à l'autre que par le développement logique de la pensée, et où l'on peut diviser le poème en sections qui, réunies, forment une unité de pensée et de sentiment. Mais s'il avait su construire ses poèmes dans l'étincelle du briquet, il y manqua totalement dans les impératives. Le poème ou la pièce sont définis en matière de maître, de rime et de sujet, et c'est tout. Il est facile de démembrer de nombreux poèmes, de diviser les vers, d'en avancer certains et d'en reculer d'autres, et d'y voir plutôt des proverbes et des sentences que la rime a assemblées sur un fil élaboré, parce qu'il est composé d'une lettre ou de deux, mais qu'on peut toujours redistribuer sans gâter le poème. Cela n'est pas le cas dans tout le recueil, mais c'est fréquent. Certains poèmes ont une unité thématique et sentimentale, mais ils sont rares. C'est pourquoi ils sont merveilleux, et nous en citerons certains si possible. Il est des poèmes qui ont une unité partielle, car Abul Ala y insère une longue description ou un thème qu'il développe, et l'unité se fait sur ce thème ou cette description, mais elle reste factice par rapport à ce qui précède ou suit. Et la cause en est que la rime est le souverain absolu de la composition des mots, idées et thèmes des impératives. Il y a autre chose dont se leurra Abul Ala et qui le fit souffrir, mais cela n'a pas de rapport avec la rime ni avec le lexique, mais a trait au sens ou plutôt à la pensée d'Abul Ala et à sa philosophie tout entière. Pessimiste, il ne parlait des êtres et des choses que d'un point de vue pessimiste. Il était donc naturellement sarcastique et critique, sa critique variant en vertu des moments où il composait de la poésie ou rédigeait de la prose. Cependant, il insista pour dire qu'il ne se complut jamais à faire de satire. C'est ce qu'il déclara à l'un de ses visiteurs qui lui rétorqua non sans malice. « Tu n'as fait la satire de personne, sinon des prophètes. » Blessé, Abul Ala pâlit, sans démentir son interlocuteur, même s'il lui en voulut. S'il n'est pas juste qu'Abul Ala n'ait fait la satire de personne sinon des prophètes, il est bien vrai qu'il fit la satire de l'humanité entière, y compris les prophètes. Cette satire de l'humanité est répandue dans toutes les impératives. Nous pouvons en donner comme exemple ces vers, où sortant de ses gonds il s'inclut lui-même. je considère que le jugement de Dieu incombe à ses créatures et qu'elles le méritent. Car tous font prévaloir leurs caprices en toutes choses, même les seigneurs puissants. Des chiens qui hurlent à meuter autour d'une charogne abandonnée, et je me vois comme le plus hargneux de la meute. » Il a aussi fait la satire des prophètes, dont voici deux exemples. « Ne prends pas pour une vérité la prophétie. Ce n'est qu'un mensonge, couché par écrit. Auparavant, les hommes vivaient heureux, mais, avec leurs fables, ils vinrent tout gâcher. » Et encore ces autres vers. « Réveillez-vous, ô hommes assoupis, vos religions ne sont qu'une ruse des anciens, qui voulurent ainsi s'enrichir et y réussir, et la coutume des méchants s'éteignit. Ils prétendent que le temps va s'éteindre et que des jours ne restent qu'un soupir, mais ils mentent, ne sachant quand il finira. N'écoutez pas les mensonges des puissants. » Dans ces deux derniers vers, la charge contre la croyance en la fin des temps et le jugement dernier est patente. Cette charge d'Abul Ala contre les religions est assez fameuse, claire et fréquente pour que l'on n'ait pas besoin de s'y arrêter ni d'épiloguer à ce propos. Elle a ici le mérite de la franchise, alors que souvent il biaise. Mais peut-être qu'Abul Ala se trompait en affirmant qu'il n'avait fait la satire de personne, ne voulant y voir que ce que les poètes avaient pratiqué avant lui en insultant des personnes, en dénonçant leurs défauts, petits ou grands, et les caricaturant. Certes, il ne pratiqua pas cette sorte de satire et ne salit personne en montrant du doigt des défauts et les rendant odieux aux autres, mais il analysait les vices communs à tous les hommes et scrutait les âmes pour en révéler les pensées d'une manière âpre et aiguë, sans toutefois tomber dans l'injure ni l'indécence. En outre, par cette satire, il n'entendait pas faire du mal, ni se venger, ni confondre, mais souhaitait, en moraliste qu'il était, corriger, amender et améliorer. Parfois la véhémence le fit s'emporter et passer du rôle du philosophe à celui du satiriste, mais ses bonnes intentions le ramenaient au bien. L'essentiel est qu'Abul Ala ne créa pas cette sorte de satire qui émane d'une méfiance envers les gens, d'une part, et d'un désir de réformer allié à une incapacité à le faire, de l'autre. Mais il eut dans cet art un maître comme dans toutes les autres branches de la poésie, Al-Mutanabi. Ce dernier fut le poète qui eut la vision la plus noire des hommes, la conception la plus pessimiste, et ne le leur cacha pas. C'est lui qui montra à Abul Ala le chemin de la critique sociale, acerbe et caustique, et lui pava la voie du pessimisme en poésie. Sauf qu'il y avait entre ces deux hommes une grande différence, car Al-Mutanabi n'oublia jamais sa nature avide et ambitieuse, et cependant incapable d'assouvir ses désirs ni de réaliser ses ambitions. Alors qu'Abul Ala se détourna totalement de toute ambition, de tout désir ou de tout profit, de gré ou de force. Et s'il fit cette critique acerbe, ce fut d'un cœur pur de toute envie, mû par le seul désir de réformer sans le pouvoir et en désespérant, pour se curer de cette douleur, de cette impuissance et de l'amertume de ce désespoir. Si on affirmait qu'il fit la satire de l'humanité, sans omettre les prophètes, cela serait plus juste, car il critiqua tous les hommes, sans faire d'exception pour les prophètes, non par méchanceté, mais avec une véhémence confinant à la violence. Que peut-on ajouter sinon qu'Abul Ala a glorifié Dieu comme personne dans les impératives, sans se priver de le prendre à partie sur la prédestination, l'imposition de la rétribution et le châtiment? Puis il en vint à reconnaître que s'il se consacrait à la piété, c'était par peur et par pitié. Je suis né et j'ai vécu comme tous les hommes, peinant comme eux et me distrayant comme eux. et je témoigne que je l'ai compris comme mon destin en cette vie que je quitterai craintif et pieux. En somme, j'ai passé avec toi, ô Cheikh, quelques dizaines de jours dans ta prison obscure et triste. Mais j'ai béni ce séjour, car j'y ai trouvé un plaisir intellectuel raffiné, une douleur intellectuelle pénible, parce que j'ai de la peine et de la pitié pour toi à cause de toute cette souffrance et de ce plaisir que j'ai trouvé dans ta prison. Si je l'avais pu, je serais resté plus longtemps avec toi, car je n'ai pas encore épuisé mon besoin d'être avec toi, et pense ne jamais l'épuiser. Car je sais que rien ne m'est plus précieux ni plus cher que de m'entretenir avec toi et de t'écouter. Mais je suis maintenant forcé de te quitter. La nuit était déjà bien avancée, et dès l'aube il faudrait partir à Paris. Certes, tu ne peux savoir ce qu'est Paris, et je ne pense pas qu'elle aurait pu te distraire de ta tristesse et de ton pessimisme. Je suis même sûr que si tu l'avais connue, tu aurais été encore plus triste et pessimiste, comme lorsque tu découvris Bagdad. Mais moi, Paris me détourne de la tristesse et du pessimisme, et me procure des plaisirs intellectuels qui ne sont pas moindres que ceux que je trouve à parler avec toi et de toi. En tout cas, elle me fait sortir de la prison où j'aurais souhaité rester avec toi. Qui sait, peut-être me lasserai-je de Paris et reviendrai-je te voir de temps en temps. Écrit à Morzine du 3 au 17 août 1938.